Radiola présente La main à la pâte, le projet alimentaire territorial raconté par celles et ceux qui l'ont vécu sur le territoire de Dieulefit-Bourdeaux. Rencontre avec Céline Basset, microbiologiste des sols.
Je suis experte au niveau de la régénération du microbiote du sol. Je suis aussi chercheuse au Conservatoire national des arts et métiers. De l'autre côté, j'ai été paysanne il y a quelques temps. Et puis, surtout, j'accompagne les agriculteurs, les agricultrices dans leur chemin de transition agroécologique ou même en transition en agriculture biologique.
Quand et comment en es-tu venue, toi, personnellement, à t'intéresser au sol, aux différents sols et à ce qui est sous nos pieds ?
C'est une maladie du microbiote intestinal, pour le coup, qui a fait que du jour au lendemain, je me suis intéressée à mon alimentation, puisque je voulais savoir pourquoi j'étais malade. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir le monde de la microbiologie, qu'il y a justement des liens entre le microbiote du sol et le microbiote de notre intestin.
Alors justement, est-ce que tu peux nous rappeler le rôle primordial du sol ou des sols pour la pérennité des cultures ?
Alors, il y en a plusieurs. Le microbiote du sol, il doit être d'abord en nombre, en lien et en biodiversité. Donc on doit avoir bactéries, champignons, protozoaires, nématodes et micro-arthropodes. Eh bien, ce microbiote va être un allié pour les cultures et pour les pâtures, parce qu'il va fournir un système immunitaire aux cultures, donc une meilleure défense par rapport aux maladies, mais aussi une meilleure qualité nutritionnelle des aliments, avec plus d'oligo-éléments et de macronutriments. Donc par exemple le sélénium, qui est très rare maintenant dans notre alimentation, y compris dans les pâtures pour les éleveurs. Plus on va avoir un sol riche et diversifié en termes de microbiote, plus on va avoir des élevages en bonne santé. Et puis en termes d'élevage humain que nous sommes, eh bien on aura un microbiote du sol qui va nous permettre d'avoir un meilleur microbiote intestinal.
Et en quoi une meilleure gestion des sols, elle permet de faire face au réchauffement climatique ?
Plus on va régénérer le microbiote du sol, plus on va, entre guillemets, épaissir le matelas pour amortir les chocs. Par exemple, un choc, ça va se traduire par une grosse pluie, 80 mm d'eau chez nous, ça fait mal au sol. C'est ce qui fait que le sol est sur la route. Si on a un sol qui est en bonne santé, il y aura une amélioration de la portance du sol. Et donc, ça va limiter l'érosion. Si l'eau arrive à s'infiltrer, elle va retourner à sa place dans les nappes phréatiques. Mais il faut d'abord arriver à venir à bout de cette semelle de labour, cette plaque de compaction qui empêche 1. La régénération du microbiote du sol, 2. L'infiltration et le stockage de l'eau dans le sol. Donc, nécessairement, en réparant les sols, je vais pouvoir atténuer ces problèmes de dérèglement climatique. Techniquement, par exemple, les problèmes hydrauliques liés à des épisodes de cévenol de plus en plus importants seraient largement mieux gérés si on avait un sol en bonne santé. Et pareil pour la sécheresse. On aurait beaucoup moins de sécheresse si l'eau revient à sa place dans le sol.
On parle notamment de sol vivant. Qu'est-ce que ça veut dire ? Et par opposition, quelle est la proportion de nos sols cultivés en état de mort clinique ?
On n'a pas des morts cliniques. Il restera toujours un peu de bactéries. Mais on a un gros problème, c'est qu'on n'a que des bactéries dans le sol en majorité. Sur toutes les terres agricoles qui aujourd'hui passent sous mon microscope, on a une majorité de bactéries. Et moi, quand j'ai que de la bactérie, oui, je panique. Parce que la majorité des cultures a besoin de champignons. Et que bien souvent, les autres protozoaires, nématodes, micro-arthropodes sont absents.
Tu accompagnes des fermes dans le cadre du plan alimentaire territorial. Quel est l'objectif de ces accompagnements ?
L'objectif, d'abord, était de faire une grande étude de sol pour chaque ferme, de regarder en fait quel était l'état de santé de leur sol. Donc un état de santé du sol, ça va donc se mesurer par rapport à des indications de compaction, donc pénétrométrie. Ça va aussi être un diagnostic de biomasse microbienne et de regarder aussi comment s'infiltre l'eau, comment est-ce que le système racinaire arrive à bien s'ancrer, et tout ça en lien avec la pratique agricole actuelle. Donc c'est un peu un état des lieux de la santé du sol de toutes ces fermes.
Tu peux nous dire les fermes sur lesquelles tu es intervenue ?
Alors, il y en a eu plusieurs. Il y a eu donc la ferme des Blés Barbus, le domaine du Chardon Bleu, la ferme Le Faille de Laure et Nico Charouin, et il y a eu la ferme à l'époque de Yann Darmstadt, le fabuleux jardin.
Tu as notamment donc accompagné la ferme des Blés Barbus à Truinas. Est-ce que tu peux nous raconter quel a été votre travail avec Joseph Crichel, le paysan de cette ferme ?
Alors, il y a eu plusieurs étapes. Lorsque je vais faire une étude chez un paysan ou une paysanne, je vais en général les faire participer pour qu'il y ait une sorte de sensibilisation et qu'on regarde ensemble avec le microscope qui est présent dans le sol. Ensuite, ensemble, on a fait des relevés de compaction avec le pénétromètre sur l'ensemble des parcelles, donc il y a plusieurs hectares. Ça a pris beaucoup de temps et en moyenne, on va prendre 30 à 45 mesures pour pouvoir faire des études et des moyennes statistiques. Concrètement, c'est revenir plusieurs fois et participer aussi à la vie du paysan pour pouvoir comprendre la pratique agricole, pour que le changement puisse se faire en douceur.
Qu'est-ce qui va suivre après cette phase de diagnostic des sols et des différentes parcelles, notamment à la ferme des Blés Barbus ?
Alors, on aimerait avec le PAT 2 qu'il y ait une expérimentation justement sur le long terme. Et avec Joseph, on a commencé un petit peu à tester les réensemencements du sol par vermiremédiation. Et ensuite réensemencer des parcelles expérimentales par vermiremédiation. Donc c'est un courant scientifique qui utilise le vermicompost pour pouvoir dépolluer ou réensemencer des sols. Un petit peu complexe, mais en gros, c'est élever des micro-organismes en utilisant des vers de terre.
Quels sont les autres moyens possibles pour adapter nos cultures au changement climatique ?
Alors, il y en a plusieurs. Donc, moi, je suis partisane qu'il faut d'abord régénérer le sol pour pouvoir justement après installer de l'agroécologie ou de l'agriculture biologique et réduire même le cuivre et le soufre qu'on utilise en agriculture biologique et pour pouvoir après amener aussi tout ce qui va être le domaine de l'agroforesterie. Donc, toutes ces méthodes sont complémentaires, mais pour moi, elles ont un ordre à respecter qui est d'abord, je vais régénérer le microbiote du sol pour ensuite passer en agriculture, on va dire, régénératrice.
Et ça permet aussi la sécurisation alimentaire localement ?
Tout d'abord, d'un point de vue géopolitique, aujourd'hui, si on ne met pas d'engrais, même en bio, donc des engrais synthétiques, il y a une baisse de rendement. Et les engrais, la majorité du temps, sont importés, issus de l'extraction, comme le phosphore. Les phytos, dans l'agriculture conventionnelle, sont importés aussi. Et le cuivre et le soufre, en agriculture biologique, sont importés aussi. Donc, même notre matière organique est importée. Si aujourd'hui, on a des problèmes, des cyberattaques sur les chaînes d'approvisionnement, comment on fait ? Comment on fait ? Vu que notre agriculture, aujourd'hui, est perfusée aux engrais, même en matière organique, et aux intrants. Il y a un gros problème de vulnérabilité systémique par rapport aux chaînes d'approvisionnement et même par rapport aux situations géopolitiques. Si on consolide notre microbiote du sol, on a nécessairement moins besoin d'engrais, moins besoin de phyto et même voire plus du tout. Donc ça nécessite effectivement, il y a plusieurs études de Sparks qui disent que le sol n'est pas pauvre en nutriments, mais le sol est pauvre en microbiote, ce qui fait qu'il n'y a pas de biodisponibilité des nutriments. Donc là, je touche à quelque chose qui vient un peu ébranler effectivement nos croyances sur le sol, parce qu'on a oublié de mettre les lunettes de la microbiologie et de la biologie du sol. On a uniquement mis les lunettes de la physique et de la chimie, alors que ces trois sphères sont complémentaires et interdépendantes.
Donc moins d'engrais, c'est une forme d'autonomie plus grande. Mais comment on fait pour que le sol, qui est si peu visible, si peu connu, devienne de nouveau une boussole pour nos cultures ? Est-ce que les paysans, par exemple, plus conventionnels, ont quand même un peu conscience de ça ou ont encore un rapport au sol ?
Lors de la manifestation avec les agriculteurs à Montélimar, il y en a certains qui ont demandé, parmi ces syndicats, qui ont dit « nous, on veut bien des alternatives aux phyto ». Et donc, mes travaux font partie des alternatives qui sont testées. Et donc, par rapport, en fait, à cette image clivante de l'agriculture conventionnelle et l'agriculture biologique, peut-être qu'il y a un peu de gris à voir, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui souhaiteraient passer à l'agriculture biologique, mais la baisse de rendement peut faire peur, parce que le management du sol est compliqué, et il a été un grand impensé pendant très longtemps, et il l'est toujours.
Et rendre la terre plus proche, plus connue du grand public, est-ce que c'est aussi un enjeu ?
C'est fondamental. Si on remet la biologie, on la démystifie, on la décomplexifie et on la rend démocratique et vulgarisable, mais tout le monde, en fait, saura avec qui on travaille dans le sol.
En quoi le PAT est justement un plus pour accompagner à la fois l'adaptation au changement climatique, mais aussi à sensibiliser, en fait, de façon un peu plus large, les gens, les paysans, mais pas que sur le territoire de Dulfi-Bourdeaux, par exemple.
Alors, pour faire justement différents PAT sur le territoire national, ce que je trouve de remarquable dans le PAT de la communauté de communes de Dulfi-Bourdeaux, c'est qu'ils ont vraiment une stratégie qui a été de rentrer immédiatement dans l'action et de travailler immédiatement sur cet axe de sécurité alimentaire. et de faire le lien avec le microbiote du sol, de faire le lien avec l'agroforesterie, de faire le lien avec la biodiversité au-dessus du sol. Et ça, je ne l'ai pas vu sur d'autres territoires. Il y a eu pas mal de réunions, il y a eu aussi des formations tout public. Et donc, il y a cette volonté du PAT d'à la fois toucher le grand public, les experts et le tissu agricole. Donc, il est assez unique, ce PAT, honnêtement, par rapport à d'autres PAT avec lesquels je peux travailler en dehors du Sud-Est.
Quelles seraient idéalement les futures actions à mener au pays du Fibourdeau dans le cadre d'un PAT2?
Alors, ce que j'aimerais, c'est pouvoir déployer cette expérimentation sur la filière agricole céréalière, parce que la céréale, c'est un grand enjeu pour nous au niveau national, et que travailler sur le blé tendre, les différentes espèces de blé, le petit épeautre, le sarrasin, c'est quand même la manne de notre pays, le blé. Et pouvoir réintroduire un microbiote du sol qui va nous produire un blé qui va pouvoir permettre de changer des pratiques agricoles, ça serait génial, parce que ça va aussi initier une filière pour changer les machines. Bon, là, voilà, je vois très loin, pour pouvoir justement, pourquoi pas, avoir un travail en commun avec l'atelier paysan, pour pouvoir travailler sur ces machines agricoles de la filière céréalière, pour qu'elles puissent être calibrées autrement, en fonction du règlement biologique du sol. Ça peut devenir vraiment un démonstrateur, même national en fait, hein. Et pour le coup, on a de l'avance, je trouve, par rapport à d'autres territoires.
C'était La main à la pâte, le projet alimentaire territorial raconté par celles et ceux qui l'ont vécu sur le territoire de Dieulefit-Bourdeaux. Prise de son et réalisation, Pauline Lemaire Desmarais. Musique, le morceau Salento est tiré de l'album Plaisir d'amour, chanson sans parole, composé par René Aubry. Une production réalisée dans le cadre du projet alimentaire territorial porté par la communauté de communes Dieulefit-Bourdeaux et soutenue par le Programme national pour l'alimentation, le plan France Relance et le Fonds européen agricole pour le développement rural. Une création, Radiola.